C'est une petite fille solitaire qui se trouve entre son père et sa mère dans une grande maison. Et le père et la mère de cette petite occupent toute la place autour d'elle et lui font porter leurs angoisses, leurs peurs, leurs humeurs, leurs colères. Il y a une menace, une menace qui est installée autour d'elle parce qu'on lui fait jouer un rôle qui n'est pas de son âge non plus, parce qu'elle est là, elle est toujours en présence de ce couple parental qui l'utilise un peu finalement. La place qu'elle réussit à occuper, c'est la place de miroir.
Aux éditions de l'Olivier, Corinne Hooks, Le Grand Menu. Page 7. Je ne sors pas. Dehors, il y a des phénomènes, des choses belles à voir, des choses à sentir. Mais je ne sors pas. Il y a de grands dangers là-bas dans l'existence, parfois même des dangers mortels. Certaines plages ont des sables mouvants. On s'enfonce dans le sol sans trouver rien de solide à quoi se retenir. Et pendant qu'on s'enfonce, la mer vient aussi vite qu'un cheval au galop et recouvre l'endroit où on s'est enlisé, comme s'il n'y avait personne. Il y a des régions où les marais sont si puissants qu'ils absorbent des vaches entières. Des brouillards aveuglants égarent les voyageurs qui s'écartent du chemin et qui sont engloutis. La nature est sans pitié. Dehors, il y a aussi les agissements des hommes. Ça se passe en pleine rue, et parfois en plein jour. Des gitans dans la foule se glissent jusqu'à vous, et leurs gestes vous frôlent. Ils plantent dans vos yeux leurs yeux brûlants de braise. Et vous, vous les suivez même si le soir approche, et vous vous retrouvez logé dans une roulotte. Vous portez un grand châle, un jupon à volant, et vous dansez la nuit autour d'un feu de flammes, les pieds nus et les cheveux défaits. Eux, ils se tiennent en cercle, et ils tapent dans leurs mains. Plus tard, ils vous apprennent à lire dans les cartes, à prédire l'avenir et à jeter des sorts. Ou bien ils vous exhibent avec eux dans des foires. Vous finissez comme cible d'un lanceur de coutelas. Et puis, il y a les trafiquants d'esclaves qui jettent les fillettes dans la cale d'un bateau. C'est la traite des blanches. Le bateau disparaît plus loin que l'horizon. Vous êtes enchaînés, le visage voilé, mais le reste du corps paré de bracelets et de soieries. On vous vend au marché d'un pays étranger, parmi les drogues et les épices, pour faire la danse du ventre dans les tavernes louches, ou pour le harem d'un sultan. Vous lui lavez les pieds, vous roulez ses turbans, vous lui chassez ses mouches, vous faites son bon plaisir jusqu'à la fin de vos jours, et vous ne revoyez plus ni papa ni maman. Il ne faut pas ouvrir, jamais, en aucun cas, ni la porte ni la fenêtre, ne pas ouvrir aux inconnus. Les vieilles dames qui ont l'air gentilles et qui tiennent un sac, ou les vieux qui mendient et qui n'ont pas l'air pauvres, ou ceux qui ont l'air pauvres mais qui viennent pour un renseignement, ou les hommes qui insistent, qui vendent des choses qu'on ne voit pas. Papa et maman ont contrôlé les portes, la porte de l'office avec son grand loquet au-dessus de la serrure, celle du jardin où une barre d'acier se bloque dans le butoir, et celle du garage dont le pêne très rude ne cède qu'à un élan brutal. Ils ont refait un tour des pièces pour vérifier chaque fenêtre, ont récapitulé tous les lieux sur leurs doigts, et ont enfin franchi le seuil, plus ou moins apaisé. Papa a introduit sa clé et a fermé à double tour. Puis, après s'être éloigné de 5 ou 6 mètres, il est revenu sur ses pas et prouvé le battant de quelques coups d'épaule. Je suis en sécurité. Le Grand Menu. Page 10. C'est la maison de papa et maman. Ils n'y sont que rarement, mais se trouvent partout. Il n'y a rien qu'ils n'aient touché ou respiré. Ils se sont installés pour de bon dans cette maison neuve. Ils ont beaucoup d'affaires dans chacune des pièces, disposées avec goût, et aussi beaucoup qu'on ne voit pas, derrière les portes des armoires en chêne, dans les penderies, dans les placards, dans le buffet. Ils ont des vêtements qui vont et viennent avec eux, et d'autres qui attendent, pendus sur les cintres et aux patères, ou pliés dans les tiroirs des commodes. La plupart sortent peu. Certains ne sont jamais sortis. et reste neuf et sans usage. Toutes sortes de choses ne quittent pas la maison. Des coussins, des miroirs, des pots d'étain, des vases. Ces objets ne savent pas ce que c'est que partir. Ils ne connaissent que cette vie enfermée. Papa et maman ont des trésors. Légumier en Canton, jardinière en Strasbourg, soupière en Vieux-Tournai, cache-pot de cuivre jaune, pichet d'étain, chenet en fonte et ustensiles pour le feu, soufflet, pelle et tisonnier. Ils ont une vitrine en marqueterie de tilleuls et de citronniers où se gardent sous clé des verres et des soucoupes. Ils ont trois tables basses à côté des fauteuils et près de la fenêtre un guéridon dressé sur ses pattes d'insectes. Le parquet luit comme de l'eau, le soir surtout, sous la lumière des lampes. Sans les tapis, je me noierais. Lorsqu'il n'y a personne, je me mets sous la table. Papa et maman, ce ne sont pas leurs vrais noms. Ce sont des noms qu'on donne, qu'ils disent qu'il faut donner. Ils soutiennent être mes parents. Je n'y connais rien en parents, mais je sais que ce n'est pas eux. Il y a des voix, les gestes, les yeux, les obstacles dans les yeux, les ombres qui se cabrent et refusent de suivre. Je ne suis pas l'enfant de ces gestes, de ces voix, de ces yeux, ni de cette maison et de ces meubles. Je ne dis rien. Ce sont des gens puissants, jaloux, terribles. Je dois rire de leur rire, trembler de leur colère, goûter leurs beaux propos sucrés. Mais il y a un tremblement, un cri urgent, qu'il faut taire. Mes parents n'existent pas. Ils se tiennent dans un lieu que je ne peux pas connaître. Leurs visages sont perdus, ils sont imaginaires, leur beauté est terrible et toujours imprenable. Mais ils sont vrais et forts comme des personnes vivantes, je veux les retrouver. Même s'il ne reste que des peaux mortes, même si tout ce qui survit est pris dans une tromperie, et moi aussi, lié à ceux qui ont façonné le mensonge. Je veux qu'il y ait une histoire. Des parents dans une chambre qui se penchaient, confiants, sur un berceau bleu. Et papa et maman sont entrés une nuit en brisant la fenêtre et ont enfoncé leur couteau. Cela s'est fait très vite, il n'y a pas eu de lutte. Ensuite, papa et maman ont très soigneusement découpé les visages au moyen de ciseaux aux longues lames fines et les ont cousus sur les leurs comme des masques, sans faux plis ni couture. Ils les portent depuis avec grand naturel et tout le voisinage est dupe. Mais les yeux restent leurs yeux. Et je vois vaciller une lueur de bête. Papa et maman n'ont rien à voir avec les voisins, ni avec les gens qu'on croise dans la rue, ni avec l'épicier, le boucher ou le boulanger, ni avec aucune des personnes de la famille, oncle, tante, grand-mère ou cousin, ni avec le bourgmestre, ni avec les ministres, ni même avec le roi. Tout ce petit peuple est sans commune mesure avec papa et maman. Tous, d'ailleurs, sont un peu risibles. Il vaut mieux en rire, disent papa et maman. Papa et maman sont tout. Ils sont le seul modèle. Ils sont le monde entier.
Le grand menu, page 26. Mon corps est rarement nu. Je le connais très mal. Je connais mieux mes vêtements. Les habits du dessous remplacent ma peau. L'épaisseur du pilou m'étoffe. Pour maman, pas de pilou. La soie l'étoffe en suffisance. Certains vêtements sont une menace. Ma belle robe écossaise aux lignes qui s'entrecroisent est un treillis qui coupe. Elle me passe au hachoir. Elle fait des morceaux pour le saloir de l'ogre. Mais il y a des vêtements qui me donnent leur douceur. Mon vieux gilet de laine en pur poil de mouton referme tendrement ses huit boutons de nacre et me tient contre lui dans sa chaleur de bête. Ses bras pourtant n'ont plus de force. La bonne l'a lavé à haute température. Il est fini, dit-elle, il est complètement cuit, mais il sera parfait pour astiquer les meubles. J'ai de belles robes, des robes du dimanche, tous les jours des robes du dimanche, avec des smocks, un col Claudine et un nœud à ma taille. Toutes du même modèle, toujours un peu trop grandes. Elles m'hébergent sans conviction. Elles attendaient une autre. Je suis un volatile en vernis noir et chaussettes blanches dont le cou et les pattes grêles
perce trois volants de jupons. « Quelle dinde !» dit papa qui veut me taquiner. Il ne faut pas prendre de place. Je suis réduite au minimum. Je porte une famine qu'on ne pourrait rassasier. J'ai une mine palote, un visage de poulet nourri sous la lampe, une expression qui manque de fer, de globules et de minéraux. Maman a l'air beaucoup plus vraie que moi. Quand j'étais petite, j'étais plus ronde. Une mignonne petite fille, soupire maman. Mais je deviens trop maigre, une suspecte, une intruse, quelque chose de mauvais, de dangereux pour elle. Trop d'angles, accuse-t-elle. Il faut qu'on la rembourre. Maman m'habille en regardant ma robe. Elle fait un beau nœud bien serré à la taille et ferme les boutons. De face, je suis droite. Je donne l'image d'un axe. Le dos se charge des courbes. Ma colonne se vrille en scoliose. Une sœur siamoise m'étreint de l'intérieur. Ça fait un bruit insoutenable, un vacarme terrible. Toutes ces frictions, ces érosions, ces gémissements de ma charpente. Ma tête pousse en avant, les oreilles entre les épaules. Un bruit insoutenable. Et mon visage sourit. Un très gentil sourire. Papa aime qu'on sourie quand son humeur l'ordonne. Comme les Wakuwa, dans ma chambre, toujours gais et contents sur leur socle, on appuie dessous et ils hochent la tête ou remuent la queue ou plient les genoux sans cesser de sourire. Même si on pousse très fort et qu'ils croulent, tout tordus, au milieu de leurs pattes, ils demeurent contents et gardent leur sourire. Avant, j'avais les cheveux longs. Et mémé, quelquefois, me les coiffait en nattes croisées au-dessus de la tête, comme deux pensées qui parlent ensemble. Des nœuds de soie y déposaient leurs baisers rouges. C'était beau comme des raisins. Sinon, mes cheveux restaient libres et venaient se pencher pour caresser mes joues. Mais les cheveux longs, c'est un luxe. Il faut avoir du temps, tout le monde n'en a pas. Maintenant, mes cheveux se trouvent dans une boîte, avec le nom et l'âge écrits comme sur les tombes. Je suis coiffée au bol. Papa m'a amenée chez son coiffeur pour homme. Il a été distrait, il lisait des revues. Pendant ce temps, le coiffeur me ratait. Maman est dépitée. Sa voix pointue déteste mes oreilles décollées et ma tête à faire peur. Le grand menu, page 42. Le dessert préféré de papa est le spéculoos. Deux ou trois biscuits lui suffisent, une frugalité dont il veut s'honorer. Toutefois, quand il y a des desserts exceptionnels, des crêpes ou des pommes au four, papa sait saluer les talents de la cuisine. Le spéculoos est un biscuit précieux qui fait des miettes. On le prend doucement entre deux doigts, mais on ne peut empêcher que des grains ne se détachent. Papa lui-même l'admet, et a coutume, pour s'en défaire, de frapper légèrement le biscuit sur l'assiette et de récupérer plus tard le résidu discrètement du bout de son index qu'il lèche. Les spéculoos sont conservés dans une boîte en fer blanc qui doit rester fermée. Papa ne fait confiance qu'à lui-même. À la fin du repas, il recueille nos miettes dans le creux de sa main et verse sa récolte par-dessus les rangées de biscuits alignés. Puis, il rabat les quatre pans du cellophane, ajuste le couvercle, en vérifie le pourtour et gratifie le tout de quelques tapotements affectueux. Ensuite, sans se lever, il ouvre le buffet ou la boîte à sa place. Quand il a refermé, il se tourne vers maman. Maman aussi a une place particulière, à cause de l'amour. Papa honore souvent le morceau qu'il préfère. Par le geste de la fessée, il fesse aimablement, comme pour la boîte de spéculoos. Ce sont des tables de tendresse. La plupart de ces fessées se passent de cérémonie. Papa les improvise au petit bonheur la chance dans le vestiaire, le bureau ou la loggia du salon, selon les occurrences. Pourtant, l'une d'elles répond à un rite plus fixe, celle du repas de midi. Elle est l'apothéose qui couronne le dessert. Maman ne fait pas de chichi. Un regard lui suffit. Elle se lève s'entraîner et va prendre la pose à la droite de papa, car papa est droitier. Puis s'accoude à la table et courtoisement s'incline. Papa apprécie que les choses soient d'équerre. Papa a des manières. Il ôte de sa main les miettes des biscuits et, délicatement, le petit doigt relevé, l'engage sous la robe. Cette main, papa s'en flatte, connaît son affaire et atteint rapidement son but. C'est un moment secret. Papa ferme les yeux. Il goûte le beau sexe. Mais papa ne se prive jamais de commentaires. Il ne néglige aucune occasion de m'instruire. En amoureux bavard, il raconte volontiers ce que sa main savoure. Une main gastronome qui juge maman très comestible. C'est un flan. Non, c'est plus ferme qu'un flan, c'est un baba. Oui, c'est ça, un baba, un délicieux baba, bien moelleux et bien tendre. C'est du gâteau, tu sais, ta mère. Et, soucieuse de ne rien laisser, la main monte grignoter les autres sucreries. Où sont donc les cerises du gâteau? Où sont-elles, les bonnes petites cerises de papa? Ah, mais oui, les voilà! Papa les sent. Elles sont à leur place, les bonnes petites cerises. Elles sont là toutes les deux. Elles sont là l'une et l'autre. Maman n'est pas avare de sa chair. C'est une chose sans importance et qui ne la touche pas. Elle n'est pas émue. Sa dignité l'exige. Et elle affiche une moue blasée au-dessus de ce qui se passe là. Tandis que papa admire avec emphase comme tout ça frémit bien, maman ne frémit pas. C'est moi qu'elle regarde de son œil qui me toise. Et de même, papa, tout en se délectant de celle qui ne l'entend pas, il tourne le visage vers celle qui l'écoute et fait part à sa fille de tous ses beaux émois. Je suis son bras, sa main, sa langue, ses papilles. Je tâte ce qu'il tâte, je goûte ce qu'il goûte. C'est dans mes yeux à moi qu'il s'admire tendrement et s'éprend de lui-même. Papa a la main voyageuse, papa a la main baladeuse, papa aime papillonner, quel polisson tout de même que ce papa, et quel poète. Papa et maman sont à l'aise. Il n'y a devant eux qu'une spectatrice muette, leur témoin nécessaire. Parfois, la main de papa ne désire pas de sucreries. Elle a des appétits plus rudes et recherche d'autres substances. Elle célèbre à tâtons le jarret, la bavette, le fondant de la cuisse, l'onctueux de la fesse. Papa dépaisse maman d'un art de charcutier. Il fait des galantines, des crépinettes, des rillettes imaginaires. Ici aussi, son bavardage ne lâche pas prise. Et il lui faut convier sa fille à son festin et la pousser dans la balance. Un beau morceau, ta mère. Un joli brin de femme. Ça, c'est de la qualité. Ça, c'est de la qualité. Papa ne voudrait pas de ce maigre derrière de gamine, de ces petits os pointus qui lui feraient des bleus. Papa est bien servi à ce qu'il me semble. Maman lui sert bon poids d'elle-même. Il en a plein les mains. Qu'a-t-il besoin de se mêler des qualités de mon derrière? Heureusement, je n'ai rien en trop, rien qui dépasse. Et quand papa se lève et invite maman à danser un mambo, un paso, un cha-cha, mon derrière reste assis sur ses petits os pointus et ne quitte pas sa place. J'ai mon assiette et ma viande froide pour partenaire. Lorsqu'il s'est assouvi et qu'il donne congé, papa, d'un geste sec, abaisse le pan de la robe. « Rideau », décide-t-il, pas loin de saluer. Toujours méticuleux, papa lisse avec soin le tissu rabattu en passant plusieurs fois une main sur la courbe. Sur mes trésors que je mets à l'abri. Quelques tapotements semblent indispensables. Maman se trouve parmi les gâteries qu'il vénère.
Que tout. chair et mon sang. Oh, mon bébé, mon âme.
Accepte ce citron.
Si j'ose écrire, le magazine littéraire de la RTBF. Une coproduction radio-télévision.